Voyez-vous, le bruit court qu'un de nos employés se serait amusé à trafiquer la poupée. La cassette aurait dit « Salut, c'est moi Chucky, le fameux étrangleur, et je vais vous tuer. »
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour à l'écran Formule Express. Aujourd'hui, j'ai décidé de taper fort en vous parlant d'une suite de films d'horreur, si ce n'est la meilleure suite d'un slasher à mon sens, Chucky 2 ou Chucky, la poupée de sang. L'histoire de Chucky 2 se passe quelques années après celle du premier. Pour rappel, nous suivons les aventures d'Andy Barclay, un enfant pourchassé par une poupée abritant l'esprit de Charles Lee Ray, un tueur psychopathe, désireux d'implanter son âme dans le corps de l'enfant afin de s'extraire de cette poupée. Mis hors d'état de nuire dans le premier, le voilà alors de retour après que l'entreprise de jouets pour enfants se serve de son corps pour relancer la production des poupées Brave Gars, ressuscitant malgré elle Chucky. Andy est désormais placé en famille d'accueil alors que sa mère est devenue folle après les événements du premier film. Mais avec Chucky de nouveau dans la nature, ses jours sont comptés.
Je t'avais bien dit qu'on serait amis pour la vie.
Avant d'enchaîner avec la production de ce second opus, je vous propose de revenir en arrière. Précisément le 9 novembre 1988, soit 2 ans jour pour jour avant la sortie de Chucky 2. Le premier Chucky vient de sortir, alors appelé jeu d'enfant. Et son succès en salle est retentissant. Il faut dire que United Artists, qui produit le film, a mis le paquet avec 3 semaines de promotion, des dizaines de spots publicitaires et une volonté certaine de faire de Chucky la nouvelle icône de l'horreur. Après avoir soigneusement repoussé la sortie pour éviter la rude compétition de la semaine d'Halloween, avec des sorties comme Halloween 4 justement, Jeu d'enfant sort en grande pompe le 9 novembre 88 et se hisse immédiatement en tête du box-office, rapportant tout de même 44 millions pour un budget de 9 millions de dollars. Énorme succès en VHS, personne ne veut laisser filer la poule aux œufs d'or et une suite est immédiatement mise en place. United Artists confie alors à David Kirchner, producteur du premier, de s'occuper de lancer la production d'une suite au plus vite. Mais à peine le projet lancé, United Artists rappelle Kirchner. En effet, à l'époque en proie à de nombreux problèmes financiers, la société est sur le point d'être achetée par Kintex, qui souhaite alors faire des films familiaux dans la veine des films Disney. Chucky n'est donc pas au programme et United Artists s'en débarrasse aussitôt. Ironiquement, l'accord d'achat par Kintex de United Artists sera abandonné assez vite. Immédiatement, Paramount, Warner, Columbia, la 20th Century Fox, Carol Co., New Line Cinema, Walt Disney et Universal se proposent de racheter la licence Chucky. Disney souhaite ardemment les droits pour en faire un film estampillé Touchstone. À peine 48 heures après l'abandon de Chucky par le studio, Kirchner est appelé par Steven Spielberg himself, envoyé par Universal. Celui-ci convainc Kirchner de céder Chucky au studio. Il n'aura qu'à demander quelque chose pour l'avoir. Le studio souhaite produire ce nouvel opus et est prêt à de nombreux sacrifices. Kirchner ne peut pas refuser une telle offre et décide de poursuivre avec Universal, qui produira désormais les films Chucky à venir. Et puis, je reçois un appel, à peine 48 heures après. C'était Steven Spielberg me disant « Écoute, tu as fait ton premier film chez Universal, j'ai besoin que tu me fasses une faveur. Ils voudraient... ils veulent ton film, Chucky. Donne-leur. Demande-leur ce que tu veux. Fais une liste de ce que tu veux, ce dont tu as besoin, n'importe quoi. Et après, j'aurai fait mon travail. Mais bon, c'est quand même Spielberg qui me le demande, quoi. Bien sûr, Steven, bien sûr. Et donc, on a signé avec Universal. On leur a donné une liste de souhaits et le projet a pu continuer. Il est alors temps pour Kirchner de trouver un réalisateur. Sur le premier opus, il avait collaboré avec Tom Holland, alors connu pour avoir réalisé Vampire, vous avez dit Vampire. Un réalisateur qui lui a donné des angoisses tout le tournage, tant il était difficile à canaliser. Il est donc inconcevable de le reprendre pour cette suite. Il a besoin d'un homme en qui il a confiance, et il pense alors à John Lafia, un de ses amis et co-scénariste du premier, qui a fait plutôt bonne impression avec la réalisation de The Blue Iguana, un film policier sorti en 88. J'avais vu le film de John Lafia, The Blue Iguana, et je trouvais que c'était très bien. Donc il y avait ce gars que j'appréciais beaucoup, qui m'a épaté avec son scénario sur le premier Chucky. Et puis, on était amis, je me suis dit, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Et je ne veux pas revivre la même chose qu'avec Tom Holland sur Chucky. Hein. J'avais des maux de ventre chaque jour de tournage. Donc j'ai choisi de l'engager. Vous savez, en vous disant ça, je ne sais pas si j'aurais fait le même choix aujourd'hui. Une fois John LaFia engagé, celui-ci appelle alors Don Mancini, le scénariste du premier Chucky, et lui demande d'écrire un scénario au plus vite pour transformer le film en véritable franchise. En plus d'avoir collaboré au scénario du premier, Don Mancini est considéré par la plupart comme le vrai créateur de Chucky. Il est désormais seul à la barre, ce qu'il a toujours secrètement souhaité, se sentant assez emprisonné par cette écriture à trois du premier opus. John LaFia lui donne carte blanche, ainsi Mancini s'éloigne de tout le côté mythologie vaudou qui parsemait le premier et se concentre désormais sur la machination du marketing de l'entreprise de jouets, un thème plus terre-à-terre et satirique. En plus de ça, Mancini décide de développer davantage la personnalité de Chucky. Il reprend des idées issues de sa première version du scénario de jeu d'enfant et agrémente le personnage d'un ton misogyne, grinçant et profondément comique.
Oh non ! Je suis en train de redevenir une monstre.
David Kirchner lui souffle l'idée de placer l'action dans une famille d'accueil. Mancini souhaite que son intrigue se déroule à la période de Noël, pour jouer avec la frénésie de l'achat des jouets pour enfants. L'idée est assez vite abandonnée, mais on peut y voir des réminiscences, notamment dans la dernière partie du script, se déroulant dans une usine de fabrication de poupées. Marc Patrick Carducci est embauché en parallèle pour écrire son propre scénario, au cas où la version de Mancini ne satisferait pas les producteurs. Cette version ne sera toutefois pas nécessaire. Le gros changement pour Mancini est son autorisation à être sur le tournage. La guilde des scénaristes lui a interdit d'assister au tournage du premier. Il peut désormais interagir sur le plateau de ce Chucky 2. Un événement déterminant dans sa carrière, car il deviendra réalisateur de plusieurs films de la licence par la suite. John LaFia souhaite un ton particulier pour le film, entre humour et horreur, sans jamais véritablement dépasser la frontière de la comédie. Lui et Mancini ont tous les deux la même vision et aboutissent facilement à un script cohérent. John et moi, on était vraiment sur la même longueur d'onde. On aimait les mêmes films. On était tous les deux complètement à fond sur Le Retour des Morts Vivants de Dan O'Bannon, qui était vraiment un excellent film. Et le ton de ce film, vraiment particulier, toujours sur la brèche. Ce ton de comédie qui est toujours mêlé à l'hystérie sans pourtant perdre son statut de film d'horreur. John LaFia est en proie au doute. Il a été choisi pour piloter un film qui se doit de surpasser le premier. De plus, le studio met une pression considérable sur le réalisateur qu'il juge trop vert. LaFia est quant à lui persuadé qu'il est capable de faire un meilleur Chucky que celui de Tom Holland.
Là, tu vois, c'est fini. Tu pourras plus t'embêter comme ça.
Pour son casting, il reprend évidemment Alex Vincent dans le rôle d'Andy Barclay, mais ne reprendra pas Catherine X qui jouait sa mère. À l'époque, la décision est controversée et donne lieu à beaucoup de rumeurs. En vérité, LaFia souhaitait seulement faire peau neuve et ouvrir la saga sur d'autres perspectives. Dans le scénario, une scène comporte la mère d'Andy lors de son audience avant d'être placée en hôpital psychiatrique, mais ne sera finalement pas tournée. Catherine X, bien que non présente dans le film, assiste à la quasi-totalité du tournage, accompagnant Kevin Yeager, son mari, qui s'occupe de contrôler l'animatronique de Chucky. Kevin Yeager, qui est un habitué de ce genre de production d'horreur, étant le maquilleur de certains Vendredi 13, Freddy et autres Hellraiser. C'est un rouage essentiel de la saga Chucky, puisqu'il a conçu lui-même la poupée.
C'est Chucky qui vient pour te tuer. Go !
Chris Sarandon, que l'on connaît notamment pour Vampire vous avez dit Vampire, et qui jouait le rôle du policier dans le premier, sera quant à lui évincé pour des raisons financières. Le rôle le plus important d'un slasher, c'est le tueur, et le studio l'a bien compris. Personne n'est irremplaçable. Si LaFia fait le choix de se séparer des acteurs du premier, il décide de s'entourer d'inconnus ou d'acteurs à gueule pour ses personnages. Il se sent plus à l'aise de diriger des seconds couteaux ou de parfaits inconnus. Choix assez audacieux, le succès du film ne reposant plus alors que sur Chucky en lui-même. Brad Dourif est de nouveau de la partie pour la voix de Chucky. C'est la pierre angulaire de la licence et le seul rôle principal de la carrière de ce génial second couteau que l'on a pu voir dans Dune, Blue Velvet, Mississippi Burning, L'Exorciste 3, Alien Resurrection, et j'en passe.
Andy, laisse-moi sortir s'il te plaît, c'est tout noir là-dedans.
Pour le rôle de Phil Simpson, le père adoptif, Jeffrey Jones et Tim Matson sont considérés. C'est finalement Gerrit Graham, que l'on connaît pour son rôle de rockstar dans Phantom of the Paradise de Brian De Palma, qui obtient le rôle. Grace Zabriskie, la Sarah Palmer de Twin Peaks, hérite du rôle de la directrice d'orphelinat, coiffant au poteau Mary Steenburgen et Karen Black, alors pressentie pour le rôle. Certains acteurs hésitent à rejoindre le projet, de peur d'être associés au genre de l'horreur par la suite. Parmi eux, on retrouve Bess Grant, qui hésite à accepter le rôle de Miss Kettlewell, l'enseignante stricte et malheureuse d'Andy.
Vous vous êtes vraiment conduite comme une vilaine fille, mademoiselle Kettlewell.
Tous ces acteurs seront accompagnés par d'autres gueules cultes du cinéma des années 60 et 70. Et puis, il y a les petits nouveaux, notamment Christine Elise, qui va interpréter le rôle de Kyle, la grande sœur adoptive d'Andy. On la retrouvera par la suite dans le Body Snatchers d'Abel Ferrara. Pour Chucky 2, elle est alors âgée de 25 ans et doit interpréter une ado de 17 ans. Un premier rôle particulier puisqu'elle doit interagir une bonne partie du film avec une poupée inanimée. Et comme la poupée était difficile à gérer, quand vous avez une scène avec elle, il faut être à 100% à chaque prise. Car si la poupée fonctionne bien dans la scène, ils seront obligés de la prendre, peu importe mon jeu. Si vous êtes très mauvais, mais que la poupée est bien, c'est 7 prises qu'ils vont prendre. Jouer avec la poupée n'était pas difficile. La seule chose qui l'était, c'était cette scène où il s'accroche à mon dos en balançant des coups de pied. Ils avaient confectionné une poupée qui bougeait sans cesse les pieds. C'est la seule chose qu'elle faisait. Je devais alors simuler toute l'action dans la chambre, c'était entièrement moi. C'était comme porter un sac à dos et prétendre qu'il m'attaquait. Et je me sentais vraiment ridicule. La FIA a une idée très précise de son film. Bien que les décors aient généralement un espace ouvert au-dessus pour permettre l'éclairage et l'équipement sonore, ils demandent spécifiquement que le public puisse voir le plafond dans le cadre, pour donner une impression de réalisme, inspiré par Orson Welles qui fut l'un des premiers à le faire. La FIA voulait également des angles plus grands, plus fluides, et une atmosphère maussade. Il s'inspire entre autres de réalisateurs comme John Carpenter, Sam Raimi, Steven Spielberg, David Cronenberg, Brian De Palma et Alfred Hitchcock, qu'il cite sans cesse dans le commentaire audio du film. Vous savez, ça vient de Chromosome 3 de Cronenberg. C'est le monstre à l'intérieur de l'utérus. Et ça vient de Jaws. Jaws, quand le requin explose à la fin. Ça, c'est un plan purement sorti d'Halloween. On s'attend à voir Michael Myers sortir de nulle part. J'étais obsédé par le fait de voir le plafond, car c'est un truc qu'Orson Welles faisait souvent. Ça, c'est très Hitchcock, tout droit sorti de Psychose. J'adore les doigts pleins de sang. Et ici, ce cut, ça, c'est très Brian De Palma, quand on change rapidement d'échelle de plan pour sortir de la scène. Il demande alors à Ivo Cristante, le production designer du film, que l'on connaît pour son travail sur Trémors et Hurlements, de créer des décors décalés et effrayants avec de hauts plafonds, des angles inclinés, des portes très hautes et des couloirs très longs. Les couleurs ont été pensées pour être criardes, lumineux comme le bleu de la salopette de Chucky ou le rouge de ses cheveux, suggérant intentionnellement mais subtilement le cauchemar d'un enfant. Aussi, un décor avec des meubles deux fois plus grands a été conçu pour donner l'impression qu'Andy est très petit et démuni dans cette maison. Tous les décors sont construits dans le studio 28 à Universal, studio connu pour avoir été créé à l'occasion du tournage du Fantôme de l'Opéra en 1925. Pour immortaliser ces décors et ces personnages, la FIA choisit Stefan Chapski comme directeur de la photographie. Admiratif de son travail, la FIA lui fait entièrement confiance. Plus tard, Chapski sera directeur de la photographie sur Ed Wood, Batman le Défi ou encore Edouard aux mains d'argent.
C'est Chucky, mais il n'était pas là tout à l'heure.
Son véritable nom, c'est Tommy.
Le tournage débute le 6 novembre 1989. Le budget est fixé à 12 millions de dollars, soit un peu plus de budget que le premier. La FIA ne laisse rien au hasard et est très directive sur le tournage. Toute la scène d'ouverture du film, où Chucky est en train d'être reconstruit, a été très réfléchie et storyboardée à l'avance. La FIA et le designer de Chucky, Kevin Yeager, ont de nombreuses discussions approfondies concernant l'apparence du crâne de la poupée et les outils qui sont utilisés pour la nettoyer. Plus précisément, la FIA souhaite inclure le grattage des dents et demande que la tête soit sur un plateau tournant afin qu'elle puisse se tourner vers la caméra. Il fait construire un œil de Chucky géant pour obtenir l'effet souhaité. Ah oui, cet œil. Et il était très très grand. J'ai fait fabriquer un œil géant pour obtenir ce plan particulier. C'était beaucoup d'efforts juste pour un plan, mais je tenais particulièrement à avoir une introduction parfaite. Et on l'a fait. En amont du tournage des scènes de Chucky, Brad Dourif enregistre sa voix. C'est désormais la poupée qui va s'adapter au mieux au discours de Brad Dourif et non l'inverse comme dans le premier film. La méthode de prise de vue de la poupée est également modifiée, son visage est alors filmé à 18 images par seconde au lieu des 24 habituelles, puis sera accéléré en post-production pour correspondre aux images. Cette technique donne à l'équipe un peu plus de temps pour synchroniser les mouvements de son visage avec les mots et s'attaquer aux lettres difficiles telles que les F et les B. Parce que John Lafia est stressé et soucieux d'obtenir les prises parfaites pour Chucky, certaines scènes prennent des journées entières de tournage, notamment la scène de Chucky sortant du placard avec la règle. Don Mancini, présent sur le tournage, se souvient de son sens de la précision. John était extrêmement exigeant. Il avait une idée très précise de comment il voulait filmer Chucky. Tout était millimétré. Et il y avait une scène en particulier où l'institutrice est tuée par Chucky qui sort du placard. Il y a deux money shots dans cette scène. Le premier, c'est quand Chucky sort du placard et que la caméra se rapproche de lui. Il y a tout un système qui cache le mécanisme dans son dos. Le deuxième est le plan où Chucky avance vers la caméra, se rapprochant de Bess, et commence à la frapper. John a passé énormément de temps à préparer et à tourner ces deux plans. Et il avait raison. Grâce à ça, ce sont certainement les deux plans les plus iconiques de la saga. L'atout majeur du film sera sa séquence finale dans l'usine de jouets. Et Lafia le sait. Il a l'idée de rendre l'usine très lumineuse et colorée. Il veut la comparer à l'usine de Willy Wonka par opposition à quelque chose de sombre et lugubre. Il sent que cela pourrait être tout aussi effrayant avec les couleurs d'un parc d'attractions. Le producteur David Kirchner se souvient encore de sa réaction lorsqu'il a découvert le plateau. Je suis venu dans le décor de l'usine de Chucky 2. J'étais tout simplement choqué. Je veux dire, rien que de voir ce décor et de marcher dedans, ce n'était pas juste un décor, c'était comme une véritable usine. Pour obtenir des scènes d'action réussies, Kevin Yeager, le marionnettiste principal et designer de Chucky, décide de réaliser lui-même plusieurs scènes mettant en vedette Chucky lorsque les marionnettes deviennent difficiles à utiliser. Ed Gale, un cascadeur atteint de nanisme, déjà présent sur le premier film, interprète le corps de Chucky dans certaines scènes. Très peu seront gardés au montage, là où beaucoup de scènes du premier utilisaient ce cascadeur plutôt que l'animatronique. 12 personnes sont nécessaires pour manœuvrer la poupée. Bien que la technologie se soit affinée depuis le premier opus, elle reste très capricieuse et doit être dirigée avec la plus grande attention. Il faut savoir que contrairement au premier opus, les marionnettistes ont eu des mois pour s'entraîner, et ils étaient payés pour s'entraîner à utiliser la poupée. Ici, Lafia leur a laissé le temps et leur a permis de vraiment maîtriser la poupée avant le tournage. John Lafia se rappelle de sa façon de traiter Chucky et de son approche toute particulière vis-à-vis de la poupée. Et quand je dis acteur, je le pense. Je traitais Chucky comme un acteur et je lui parlais en tant que Chucky. Et même s'il y avait 12 marionnettistes, je leur parlais collectivement au nom de Chucky. Et je le gérais comme un acteur. Vas-y Chucky, attrape le Chucky, etc. Comme si c'était un acteur. Ils ont tous accepté ça. Je l'ai dirigé comme un véritable comédien. Et je pense que c'est ça qui fait une vraie différence. Vous savez, je ne l'ai jamais considéré comme un simple effet spécial. Malgré son engouement certain, Lafia s'effondre à plusieurs reprises sur le tournage, ne supportant pas la pression émise par le studio. Il dépasse le budget et les temps de tournage ne sont pas respectés. De son côté, le jeune Alex Vincent s'épanouit durant le tournage et se permet même quelques rencontres qu'il n'a toujours pas oubliées. On était au studio Universal. J'étais un immense fan de Retour à le futur. Comme j'ai dit, Don Mancini m'emmenait partout. Il m'emmenait voir Retour à le futur 2 pendant qu'il tournait le 3, deux plateaux à côté de celui de Chucky 2. J'avais 8 ans et j'ai pu me balader sur le plateau, monter dans la DeLorean et j'ai même déjeuné avec Michael J. Fox. Une fois le tournage terminé, le film est envoyé sur le banc de montage de Edouard Varchilka, un monteur assez inconnu, il faut se l'avouer, mais qui dans le cadre de Chucky 2 est particulièrement efficace. Le monteur doit néanmoins user de technique pour masquer certains effets spéciaux. Il préfère les scènes d'animatronique à celles du cascadeur et utilise un découpage très cut pour cacher les éventuels défauts d'articulation de la poupée. Pour ce qui est de la mort de Phil, le père de famille, une astuce cinématographique classique appelée The Reverse Pull est utilisée. L'acteur Gerrit Graham commence le tournage déjà dans sa position de mort, puis est tiré vers le haut hors du cadre par une corde nouée autour de lui. Les images sont ensuite montées à l'envers, créant l'étrange illusion de son cou brisé. C'est une idée directement venue de John Lafia qui a toujours voulu essayer cet effet. Cet effet de nuque brisée, c'est en fait un reverse pull. On l'a placé allongé avec la nuque déjà sur le côté, et on l'a attaché avec une corde, puis on l'a tiré vers le haut. On n'a eu qu'à mettre le plan à l'envers. C'est un effet très classique, une façon à l'ancienne de faire ce genre de choses. mais j'ai toujours voulu en faire un et c'était le bon film pour. Au montage, beaucoup de scènes sont retirées pour gagner en rythme, atteignant 84 minutes, faisant par ailleurs de ce Chucky 2 le plus court de la saga. En parallèle, la musique est composée par un certain Graham Revell, que l'on connaîtra plus tard notamment pour la musique de The Crow. Il s'agit de la première grande musique symphonique du film hollywoodien du compositeur. Lorsque les producteurs lui demandent s'il avait déjà réalisé un tel score, il bluffe et répond oui. En vérité, il n'a jamais réalisé de partition orchestrale complète. Sa bande originale est très réussie et amène les thèmes de l'enfance tout au long du film, avec une musique de carnaval qui crée une atmosphère enfantine mais mortelle. Dans une interview avec Graham Revell, il a déclaré « La musique est assez inhabituelle, surtout pour un film de slasher. Elle est plus grandiose et plus mélodique que la plupart des musiques du genre, parce que je voulais aider à situer l'action au sein de la famille, à jouer le contexte de la poupée et de sa nature mythique. » Lors de la création de la musique, Revell essaye d'imiter son collègue compositeur de film, Danny Elfman, jusqu'à l'utilisation de la chef d'orchestre du groupe de production d'Elfman, Shirley Walker. Elfman signera la BO de Darkman et Cabal à peu près la même année. John Lafia suggère à Revell de regarder des films de monstres des années 30 et de s'inspirer de la composition de leurs thèmes musicaux, ce qui ressort bien dans le thème principal de Chucky 2. Dans le commentaire audio, Lafia est encore émerveillé par ce thème.
I really love the score that Graham Revell did for this film.
J'aime vraiment la bande originale que Graham Revell a fait pour le film, plus particulièrement cet opening. C'est génial. C'est très film de monstre, ce que je voulais vraiment. Vous savez, il a ce côté classique années 30, très film de monstre.
You know, monster movie.
Universal est dans les starting blocks pour le lancement du film. Il mise gros sur ce projet et souhaite propulser Chucky 2 bien au-delà du succès du premier. La campagne publicitaire d'Universal pour la bande-annonce du film est d'ailleurs nominée pour le Hollywood Reporter Key Art Award avec son fameux « Sorry Jack, Chucky's back ».
Tenez-vous bien, Chucky revient.
Chucky, la poupée de sang. Attention les yeux.
Pour renforcer l'attrait du film, le marketing a l'idée de créer un numéro de téléphone promotionnel qui permet aux fans d'entendre la voix de Chucky. Le numéro reçoit 40 000 appels en seulement un mois. Le 9 novembre 1990, deux ans jour pour jour après la sortie du premier Chucky, sort Chucky 2. Le film rapporte 35 millions de dollars pour un budget de 13 millions. Un résultat en deçà des scores du premier, mais un succès remarquable pour un slasher. Ce qui met directement Chucky sur les rails d'une saga à succès, une saga qui comportera 8 films et une série télé. Si le public est positif, la critique est assassine envers Chucky 2. Siskel et Ebert lui mettent la note de 0 et considèrent que John Lafia s'est prostitué en faisant le film. On retiendra quand même que Chucky 2 reste encore aujourd'hui le préféré des fans et à juste titre. Il a été nominé pour un Saturn Award et choisi pour faire partie de la sélection officielle du Festival International du Film Fantastique d'Avoriaz. Pour toujours plus de promos, Chucky apparaît en smoking au Horror Hall of Fame Award de 1990 pour annoncer la sortie en salle du film. Cet événement est présenté par l'animateur Robert Englund, Freddy Krueger des Griffes de la Nuit.
Ladies and gentlemen, here's Chucky! Thanks, Robin. Hey, thought you weren't gonna be in makeup tonight.
Bien que le premier film pose les bases, c'est véritablement le 2 qui révèle la personnalité de Chucky et qui place le ton. Pour l'anecdote macabre, il a été révélé que Chucky 2 était le film préféré de Martin Bryant, responsable du massacre de Port Arthur, fusillant 35 personnes en Australie en 1996.
Je te promets que je ne tuerai plus jamais personne, d'accord ?
Étant très fan du film, j'ai une pensée assez émue pour John Lafia qui s'est ôté la vie en 2020. Pour ma part, Chucky 2 a été une révélation. Quand je le découvre, je dois avoir à peine 11 ans. Ma seule expérience de l'horreur à cette époque-là, ça se résume à Scary Movie. Et je tombe immédiatement amoureux de l'ambiance de Chucky 2. Je le préfère immédiatement au 1, bien que ce deuxième opus me terrifie beaucoup plus que l'original. Et il devient petit à petit mon film de chevet, et passe alors d'un cauchemar à un doudou. Aujourd'hui, c'est un film que je regarde pour me détendre, voire même pour remettre un peu les compteurs à zéro. Alors oui, Chucky 2, c'est pas un grand film, mais c'est un slasher solide, bien tourné, bien monté, fun et terriblement efficace. L'intrigue s'étend sur à peine 4 jours, ça dure moins d'une heure 30, le film se finit en pleine action, il n'y a pas une demi-heure de post-climax, et la VF aussi entre terrifiant et hilarant. Que demander de plus ? Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Retour à l'écran express. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les coulisses du cinéma. En attendant, vous pouvez retrouver nos épisodes sur les plateformes de podcast. Alors à très vite.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma.
Pour être aimé, il faut être aimable.
Vous voulez un chocolat ?
C'était pas ma guerre !
Back in full force.
Quelle est votre devise ?
Je m'appelle Bond. James Bond.
Vous délirez totalement là.
C'est ça qui permet de voyager à travers le temps.
La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
Vous êtes un mélancolique.
Mélancolique, mon cul.